22e édition du Festivalier, du 28 juillet au 1er août 2026 à Langogne. Une émission de 48 FM, Radio Margeride et Radio Bartas.
Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons en direct du Festivalier, vous venez de l'entendre, c'est la 22e édition à Langogne. Nous sommes sur 48 FM et en différé sur les ondes de Radio Bartas et de Radio Margeride. Au programme de cette émission en direct, vous allez d'abord écouter Milena avec qui on a enregistré un entretien hier au téléphone, une petite interview. Puis nous retrouverons Léora qui sera ici en studio avec nous. Elle va partager la scène des concerts au jardin ce soir. Et il y aura également la compagnie Les Invendus qui vont proposer ce soir le spectacle Influence. Et pour cette émission, nous ne l'avons pas préparée seule. Nous accueillons notre équipe de jeunes journalistes. Bonjour Rose.
Bonjour.
Donc on a Rose, on a également Rock. Bonjour Rock.
Bonjour.
Rock, toi, t'as l'habitude, t'étais déjà là l'année dernière.
Oui.
Donc t'es revenu. Et puis également Wayne. Salut Wayne.
Bonjour.
Donc vous trois, ce matin, on a préparé les interviews pour les artistes. On va pouvoir, on vous entendra tout à l'heure poser les questions. Et comme je viens de le dire dans le sommaire, on va commencer avec l'interview enregistrée hier pour Milena qu'on aura la chance d'écouter ce soir à 19h30. Rendez-vous sous la halle avant de partir justement dans le jardin pour l'entendre. Donc du coup, on s'écoute tout de suite l'interview avec Milena. C'est parti. Bonjour à toutes et à tous et bonjour Milena, merci d'avoir accepté l'invitation sur 48 FM. On est là pour parler du festival de l'édition 2026 du Festivalier à Langogne, un festival où on va avoir le plaisir de vous écouter ce soir à 19h30. Justement à 19h30, ça sera le rendez-vous sous le hall puisque on va après se déplacer, pour l'instant c'est secret, mais les spectateurs vont pouvoir marcher un peu jusqu'à un jardin pour vous écouter dans un jardin d'une habitante ou d'un habitant de Langogne. C'est également ce qui fait la particularité de ces concerts chez l'habitant du festival. Peut-être première question, avant de parler de votre musique et de votre actualité, vous avez déjà joué devant des très grandes scènes. Ça fait quoi de jouer, de se dire qu'on va jouer dans le jardin de chez quelqu'un?
Et ben en réalité, moi j'ai plus de pression quand je joue dans une petite salle ou dans ce genre de contexte que dans des grandes salles. Parce que je trouve qu'il y a une proximité, une certaine proximité avec le public qui est limite plus intimidante. Et en vrai j'ai bien hâte parce que c'est vrai que dans le jardin de quelqu'un, j'ai jamais fait. Mais je pense que ça va être un bon moment parce qu'il y aura justement cette proximité et, que j'aime beaucoup parce qu'on peut vraiment prendre le temps pour expliquer une histoire à travers des chansons. Donc j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner.
Oui, c'est ce que vous dites, c'est que c'est peut-être plus intimidant de voir un auditeur, un spectateur, une spectatrice à peine 2 mètres de soi qui vous écoute, plutôt que dans une salle vide où on se dit il y a 5000 personnes mais on les voit pas.
Eh bah oui, franchement, je pense qu'il y a beaucoup d'artistes qui disent la même chose. Une salle assise avec peu de personnes, ouais, c'est vraiment plus intimidant. On a vraiment ce truc très proche des gens. Donc la moindre chose va s'entendre et je sais pas, il y a un truc un peu plus, ouais c'est ça, intimidant.
Intimidant mais aussi intimiste et je pense que c'est aussi peut-être ce qui peut en partie qualifier votre musique justement pour les auditeurs qui nous écoutent. Juste après l'interview, il y aura un exemple musical, une petite pause musicale, on va pouvoir en écouter. Mais comment vous présenteriez vos musiques? C'est vrai que le festivalier est assez large, hein. Ils disent voilà, c'est de la chanson francophone. Voilà, comment vous pouvez un peu vous qualifier?
Et ben moi souvent quand on me demande ce que je fais, je réponds que je fais de la chanson pop franco-arménienne. J'écris notamment surtout en français quand même parce que je me sens quand même très à l'aise en français. Et c'est vrai que ce côté arménien, je peux pas le mettre de côté parce que c'est vraiment partie de moi et de mon histoire. Et donc naturellement, je pense en arménien parfois, je parle arménien tous les jours avec mes parents, donc j'écris aussi dans cette langue. Et c'est pour ça que ce qui est quand même bien avec ce que je propose, je passe par des festivals ou des concerts où on propose de la chanson francophone, mais je peux très bien aussi faire une première partie, par exemple, d'une artiste plus entre guillemets musique du monde. Et donc c'est compliqué toujours de définir, je trouve, ce qu'on fait et mettre des mots dessus, mais j'ai pas trouvé mieux que chanson pop franco-arménienne.
Oui, ça me fait penser, il y a quelques semaines, j'ai interviewé une artiste pour un festival plus musique du monde, Tara Akna, qui, elle, par exemple, avait dit, elle avait grandi en France de parents algériens, mais elle a réappris la langue arabe de ses parents plus tard en disant, voilà, c'était un manque pour, j'avais besoin de m'exprimer dans la langue d'origine de mes parents. Vous, en fait, c'est comme vous dites, vous, pour le coup, c'est plus, vous l'avez appris, vous êtes né avec, c'est une langue que vous maniez, des fois vous vous dites pour cette émotion, pour cette chanson, c'est plus l'arménien qui va me venir que le français. Comment ça se passe ce choix artistique?
Ouais, bah souvent en fait, quand c'est un peu quelque chose où je vais parler peut-être plus de mes parents, de ma famille, d'un souvenir d'enfance, je vais plus penser en arménien. Parce que souvent, bah, c'est comme si je le disais à ma mère ou à mon père. Donc je le dirais en arménien naturellement. Et quand c'est quelque chose plus qui concerne plus ma vie de jeune femme et mon quotidien, ce serait plus en français. Donc voilà, en fait, c'est vraiment très instinctif et intuitif. Je me pose pas trop de questions sur le moment. Et d'ailleurs, quand mon écriture est très comme ça, c'est très rare que je me pose 10 000 questions pour écrire une chanson. Je fais sur ce qui me vient sur le moment et je trouve que c'est les meilleures chansons.
Et puis l'Arménie, je ne pensais pas vous que vous allez dire le contraire, mais c'est une grande terre de musique, j'ai l'impression. Sans, voilà, je vous parlais du pianiste Tigran Hamasyan, on peut parler forcément d'Aznavour, mais même aussi d'un groupe de métal comme System of a Down. Vous êtes aussi, on l'a dit, vous écrivez les musiques, mais vous êtes aussi autrice, compositrice, voilà, vous êtes guitariste, musicienne. La musique en Arménie, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de la culture?
Oui, beaucoup. Vraiment beaucoup plus même qu'en France, je trouve, même dans la rue, enfin dans les maisons. C'est quelque chose qui est très présent. Et moi-même, j'en ai beaucoup entendu bah, de la musique traditionnelle aussi. Le doudouk, qui est un instrument traditionnel arménien que j'entends depuis toute petite. Et d'ailleurs, j'en intègre dans mes chansons aussi. Donc oui, c'est l'art, en fait, en général, est très présent en Arménie. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses autour de l'art, beaucoup de musées aussi. Enfin, donc c'est très riche culturellement et artistiquement.
L'instrument dont vous venez de parler, est-ce que c'est celui-là qu'on entend par exemple faire la mélodie principale sur votre dernier single?
Oui,
Alors, je vais pas forcément c'est le prononcer, si,
c'est
Nord
le
Horaire.
single. Oui, c'est ça, Nololel, ouais, c'est ça, qui veut dire des nouveaux jours. On a intégré du doudouk dessus, comme j'avais fait sur le premier EP. Déjà, il y avait déjà quelques mélodies avec cet instrument. Donc voilà, j'aime bien, ça apporte vraiment une touche. Et puis ça, c'est vraiment un instrument, enfin, je le trouve magnifique et je ne pouvais pas ne pas l'intégrer. Et il sera sur le nouveau, il y en aura sur le nouveau disque qui sortira à l'automne prochain.
Oui, c'est ça, premier EP Armat sorti en 2024. Depuis
C'est ça.
une série de singles, et vous venez de le dire pour annoncer un autre projet d'ici quelques semaines. Mais justement, moi je trouve qu'en écoutant votre premier EP et par exemple Nord Horaire ou alors même le morceau sorti juste avant, vous intégrez de plus en plus aussi, peut-être pas plus. Bah non plus de l'électronique, mais voilà, des batteries
Oui.
peut-être. Il y a aussi une évolution dans votre musique, un peu de nouvelles chansons françaises. Là aussi, c'est une manière de se renouveler.
Oui, vraiment. En fait, ce renouvellement, il n'est pas arrivé par hasard. Déjà, c'est des influences plus pop indie que j'écoute de plus en plus moi-même de mon côté. Et en fait, c'est vrai que j'ai commencé à travailler avec un nouveau arrangeur qui est sur Grenoble, qui s'appelle Fave, Quentin Fabergé. Et c'est lui qui a arrangé et réalisé tout le nouveau disque qui va sortir à l'automne, en novembre prochain. Et d'où ces deux singles qui sont un petit peu différents du premier EP Armat, qui a donc été arrangé par une nouvelle personne. Donc forcément, on entend des nouvelles sonorités. Et je suis très contente d'apporter cette nouvelle touche un peu plus moderne aussi, c'est plus frais. Et j'aimerais bien continuer à évoluer un peu dans cette lignée-là. Et d'ailleurs, le live aussi a pas mal évolué. Justement là demain, enfin le 30, on sera en duo avec mon arrangeur sur scène.
Et oui, en regardant un peu même vos premières parties, voilà, j'ai l'impression que on peut maintenant vous identifier un peu à cette nouvelle scène, et notamment beaucoup de chanteuses. Hein, je pense forcément à Solane, mais j'ai vu aussi Hélène Sio. J'ai même vu qu'aujourd'hui, ou hier notamment, sur Instagram, vous avez mis une petite musique de Zélie, aussi une artiste qu'on passe sur 48 FM et qu'on aime beaucoup. Ça fait partie de toute cette nouvelle scène musicale qui a l'impression de... n'a plus de complexe, ose, et même aussi dans ses paroles, il y a une certaine liberté de cette nouvelle vague de chanteuses françaises francophones.
Ouais, vraiment, enfin, là, de toutes les chanteuses que vous avez citées, je les aime toutes, franchement, je trouve qu'elles ont tout leur univers et leur identité, et vraiment à leur manière. Justement, là, l'album de Zélie, là, je l'ai écouté tout à l'heure dans le train, et je lui ai envoyé un message pour lui dire que j'adore ce nouvel album, là, je trouve qu'elle est... Enfin, il y a une telle sincérité, et justement, c'est de cette chanteuse-là que je m'inspire, parce que je trouve qu'il y a vraiment une manière d'écrire aussi les paroles. C'est comme si elle me le disait ou qu'elle le disait aux gens. Et c'est vrai que ce truc-là, bah, j'aime beaucoup dans les nouvelles chanteuses là qui ressortent un petit peu dernièrement. Hélène Sio aussi, c'est une artiste que j'écoute beaucoup, pour qui j'avais ouvert et qui m'inspire énormément. Donc oui, complètement, il y a vraiment ce truc dans mon projet aussi où j'ai envie d'avoir ce truc chanson française et pop.
On l'a bien compris, et c'est ce que vous faites très bien, et on invite les auditeurs et auditrices à écouter votre dernier single sorti le 11 juin dernier, Nord Horaire, qui donne un peu le ton du prochain projet qui sortira d'ici quelques semaines. Mais surtout, si vous nous écoutez dans le coin de Langogne, jusqu'à Mende, ou en tout cas en Lozère et même plus loin, venez, n'hésitez pas à venir ce soir à 19h30. Rendez-vous sous le hall principal du marché de Langogne, et puis après, une petite marche de 5 minutes pour aller jusqu'au jardin d'un habitant ou d'une habitante du village pour justement vous rencontrer pour ce concert intimiste. Justement, juste avant de vous quitter, une petite pause musicale, on va vous écouter vous, Milena, justement, qu'est-ce qu'on peut s'écouter à la fin de cette interview ?
Eh bien, écoutons le dernier single qui vient de sortir en juin, Nololel en arménien, qui veut dire des nouveaux jours.
Profitez de cette proximité et puis une belle soirée en perspective.
Merci beaucoup pour l'écoute.
Quand tu pars, tu ne reviens pas. Tu te réinventes toujours quand tu vas loin. Le vent de ton pays revient à toi et tu suis le chemin tracé par tes veines. Et c'est là que tu te sens bien. Mais je te promets qu'un jour, tu pourras retourner de là où tu viens. Meg amsz fa megy ez heraca A gyógot szón imen kerne Én mankot szón a nös bűre Tarnó meg itt Lóra arcunk nem Mennád szelhét imorera.
Il est midi 22, vous écoutez toujours 48 FM et on est en direct du studio délocalisé au Festivalier, la 22e édition à Langogne. On vient d'écouter Milena qu'on retrouvera à 19h30 ce soir, concert au jardin. C'était la musique Nord Horaire, mais justement avant à 18h il y aura un autre concert au jardin et on vient de recevoir en studio avec nous Léora. Bonjour Léora.
Bonjour.
Tu vas bien ?
Oui.
On va pouvoir avec toi justement parler de ta musique, et je dis ça parler, moi j'ai pas fait grand chose, c'est justement nos jeunes journalistes de ce matin, Rose et Wayne, qui ont préparé tout un tas de questions pour vous, pour parler de votre carrière, de vos influences. Ils ont vraiment été super journalistes, et justement on peut peut-être commencer avec toi Wayne.
J'ai lu que vous venez d'Aveyron, un département rural et naturel comme la Lozère. Est-ce que grandir dans un tel cadre vous a influencé musicalement?
Oui, beaucoup. Et textuellement aussi, parce que donc moi, je m'inspire beaucoup du vivant qu'il y a autour de moi. Et même quand je vis dans des villes, je reconnecte toujours avec la saison, avec le moment. Et puis, je pense que quand on a grandi dans des univers comme ça, qui sont aussi du coup très denses en nature, on a tendance à regarder beaucoup de détails. Et je pense que c'est important pour la richesse de l'écriture aussi.
À vos débuts, alors que vous étiez au lycée, vous avez créé un alphabet. En quoi vous a-t-il aidé ?
Ah, oui, j'ai écrit un alphabet. Et alors, en vrai, au début, je l'ai surtout créé parce que je me demandais ce que ça donnerait justement de créer un alphabet moi-même et à quoi ressembleraient tous les sons. Et puis après, bon, j'étais en cours d'histoire-géographie, j'écoutais pas beaucoup. Et puis petit à petit, j'en ai fait quelque chose de complet. Et puis ça a été super pratique pour pouvoir écrire pendant les cours, dans le métro, personne ne pouvait me lire. Et je m'en sers toujours maintenant. Après, quand je suis toute seule, j'écris avec l'alphabet normal, ça va un peu plus vite. Mais sinon, je m'en sers, oui.
Vous avez commencé des études d'ingénieur, mais à 18 ans, pendant le Covid, vous avez arrêté. Pourquoi un basculement vers la musique ?
Alors, ouais, pendant le Covid, j'ai eu beaucoup de remises en question et c'était beaucoup de crises existentielles, mais comme beaucoup de gens à ce moment-là. Et en fait, la musique est apparue petit à petit comme vraiment une évidence qui a beaucoup soulagé mes parents, ce qui n'est pas commun chez des parents qui s'inquiètent beaucoup pour l'avenir et tout. Mais c'est vrai que, en fait, du coup, je passais mon Covid à composer des poèmes que j'avais écrits. Et puis voilà, c'est venu comme ça, ça avait l'air assez clair. Donc on s'est dit que c'était le moment de tenter, quoi.
Musicalement, quels sont vos modèles et de quelle façon vous vous en êtes inspiré ?
Alors, j'en ai plusieurs, de plusieurs pays aussi. Je dirais que ce qui ressort, c'est Léo Ferré, Jacques Brel, Barbara... Et puis beaucoup de chanteurs italiens, mais plus des années 60, comme Luigi Tenco ou Mina. Puis aussi beaucoup de musique classique, du baroque, mais aussi Gabriel Fauré. Voilà, un peu de tout ça. Et parce que mes parents aussi étaient choristes dans une chorale qui faisait plutôt du baroque. Enfin, on a écouté beaucoup de styles musicaux différents. Et moi, j'ai pris un peu tout ça, j'ai fait un peu mon mélange et voilà.
On va continuer avec Rose, maintenant qu'on connaît un peu mieux votre parcours. Rose a des questions toujours.
Maintenant qu'on connaît mieux votre parcours, on va parler de vos textes. Dans votre dernier single, vous souhaitez un joyeux anniversaire. À qui est-il adressé ?
Alors, c'est une chanson qui est un peu... Mais c'est un peu comme un jeu aussi. Enfin, en fait, c'est donc quelqu'un que je voyais très souvent et qui m'a dit à la fin qu'il avait une copine. Et c'était rien passé, bon, c'était rien dit. Mais bon, tout laissait à entendre qu'il n'avait pas de copine. Et puis, on se voyait quand même souvent. Et donc, mais il en reste que c'était quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime et quelqu'un qui m'a beaucoup inspirée, qui m'a fait beaucoup écrire. Et puis avec qui j'avais des super conversations. Voilà, on s'entendait très bien. Et donc, j'étais pas en colère de ça, même si bon, il aurait pu être un peu plus courageux et le dire un peu plus tôt. Mais donc, je lui ai écrit une chanson qui lui souhaite un joyeux anniversaire parce que c'était réellement son anniversaire à ce moment-là. Et donc, moi, j'avais pensé à cet anniversaire avant, quand on se voyait. Je m'étais dit, peut-être qu'on pourra faire quelque chose et tout ensemble. Et puis, en fait, non, je l'ai vécu toute seule. mais je l'ai bien vécu, c'était un très beau jour. Un 14 mars, en plus, c'est le moment où le printemps se déploie complètement. Donc, c'était agréable.
Vous parlez de sujets joyeux comme l'amour et les anniversaires, mais j'ai trouvé vos musiques tristes. Pourquoi associer ces deux émotions opposées ?
Parce que je pense que tout est dans le contraste aussi, même sans si on n'a pas de contraste, on n'a pas de lumière, on n'a pas de... voilà. Et alors moi, je ne trouve pas tout triste. Je trouve ça plutôt vivant dans le sens où... les sentiments sont jamais 100%. Enfin, si, à un moment, on va être à 100% dans le rire, on va être à 100% dans les pleurs. Mais le reste du temps, on est un peu entre les deux. Et donc, je dirais que mes chansons représentent un peu toujours ça. Que même des chansons super heureuses, oui, il va y avoir ce truc un peu de « je suis super heureuse, mais en même temps, tu m'aimes pas ». Enfin, quelque chose comme ça, c'est un exemple. Mais je pense que c'est ça qui est le plus riche, quoi. Moi, j'aime bien ça.
Pour votre prochain album, vous avez lancé une campagne de dons. On en reparlera à la fin de l'interview. Sur ce site, vous parlez de vos inspirations et vous dites « Je suis apaisée et heureuse d'être devenue adulte ». Moi, j'ai 10 ans et je me demande qu'est-ce qui fait peur quand on passe à l'âge adulte.
Très bonne question. Parce qu'en plus, l'appréhension de l'âge adulte, il arrive assez tôt et justement à l'adolescence. Moi, c'est là où j'ai commencé... On se pose plein de questions sur nous-mêmes et on arrive à... En fait, même quand on est petit... Tous les ans, on renie un peu qui on était avant. On dit « ouais, mais maintenant, je suis mieux que ça ». Et ça, ça monte jusqu'à... peut-être même toute la vie, hein, je ne sais pas, ça dépend pour qui. Mais c'est vrai que, notamment à la fin de l'adolescence, on peut arriver à une période où on veut complètement renier énormément en nous. Parce qu'on se dit « maintenant, j'ai bientôt 18 ans, je suis adulte, et donc je ne fais plus ça, je ne fais plus ça ». Mais à la fois, en fait, devenir adulte, c'est aussi accepter qu'on peut être vulnérable, qu'on peut être sensible et qu'on peut être naïf. Moi, j'aime beaucoup le mot naïf. Enfin, je trouve que c'est une qualité. Pour moi, ça a été vraiment d'accepter ça et de plus être un espèce de rock sans sentiment qui est totalement faux. Personne n'est ça. Et donc, voilà, ça a été de revenir à ça. Et puis, de plein de petits plaisirs que j'avais quand j'étais enfant, quoi. Et de rêve aussi, surtout ça. Parce qu'on a tendance à se dire l'espoir, c'est un truc pour les gens naïfs, les gens bêtes, les gens qui ne savent pas en fait le monde. Alors qu'en fait, c'est tout le contraire. Les gens qui, plus on réfléchit, plus l'espoir, on l'a. Et puis on sait très bien, on se détourne du chemin quand ça ne va plus, quand on est en train de faire confiance à quelqu'un et qu'il ne faut pas faire confiance. Mais faut garder ça.
Vous parlez aussi d'une guérison pour ce dernier album. C'est justement ça, le passage à l'âge adulte ?
Oui, pour moi, oui, beaucoup. Puis parce que je sortais beaucoup, 18, 20 ans. Et puis, mais bon, comme beaucoup de gens, au bout d'un moment, sortir beaucoup, c'est fatigant. Alors, et puis, on a envie de se coucher plus tôt, d'avoir d'autres habitudes. Mais oui, donc une guérison dans ce sens-là, mais... Aussi une guérison pour ma redécouverte de l'enfance.
On va faire une petite pause musicale avant la deuxième partie de cette interview. Et justement, on en a parlé, Joyeux anniversaire, le dernier single sorti le 14 mars dernier et qui sera dans le prochain album. On se l'écoute tout de suite, Léora, Joyeux anniversaire.
Mmh. joyeux anniversaire où je ne te vois pas. Tu as rejoint mon âge et pour tes 22 ans, j'aurais voulu t'offrir pour te surprendre un peu un bouquet de fleurs bleues que j'aurais fait moi-même. Mais il faut oublier les pensées trop sûres d'elle et le lien entre nous se dénoue au bon gré du printemps ruisselant, de la froideur tombée, de nos phrases heureuses, de ce futur trompé. Joyeux anniversaire, je n'ai fait que sourire en ce jour solitaire où je retiens mes mots. Les fleurs poussent partout, tissent des champs nouveaux. Je te pardonne tout, ne t'ai jamais blâmé. Si tu me revenais, si tu pouvais m'écrire, je n'aurais pas encore le cœur à te dire non. Le premier jour anniversaire, j'en vis cette amitié que tu dis dénudée de toute ambiguïté. Tu as dit c'est dommage que tu aimais me voir. J'aimais te dire bonjour, te dire à bientôt. Mon ami de tes bras, je garde l'illusion d'avoir été musique, qu'ils ont de tout, de ton lit, de tes nuits, de tes jardins émus. Joyeux anniversaire, tu es encore plus beau à la lumière d'un manque de courage. Je ne suis pas inquiète de ma persistance à accepter l'amour.
Écoutez toujours 48 FM en direct du Festivalier pour cette émission particulière. On est avec nos jeunes journalistes Rock, Rose et Wayne pour poser des questions à nos différents invités qui se produiront aujourd'hui au Festival, la 22e édition. Et on est d'ailleurs toujours avec Léora en studio. On vient d'écouter son joyeux anniversaire. Et ben, on continue l'interview et je crois que c'était Rose qui avait des questions sur votre musique.
On vient de parler de vos textes, mais vous êtes aussi musicienne et c'est vous qui composez vos musiques. Est-ce que vous partez des textes ou plutôt du piano ?
Alors plutôt des textes en général. Et puis après oui, soit je cherche la mélodie au piano en faisant quelques accords, soit j'ai une mélodie qui me vient comme ça. Mais c'est très rare dans le sens inverse, mais ça fait de bonnes surprises aussi.
Vous avez étudié le chant lyrique ? Mais vous chantez avec une voix normale. En quoi le chant lyrique vous a quand même aidé ?
C'est vrai, donc j'ai étudié mais assez récemment le chant lyrique. Et après, c'est génial pour plein de choses, le souffle, la posture, puis l'interprétation aussi. Et je ne compte pas m'arrêter là, dans le chant lyrique. Non, c'est, et puis même, en fait, il y a plusieurs techniques de chant lyrique. qui mêle aussi un peu la voix normale, on va dire. Et voilà, et ça m'aide aussi à élargir même ma capacité vocale, même mon chant normal, il est élargi. Alors, je conseille à tous le chant lyrique.
Toujours sur votre expérience au conservatoire, je trouve que vos musiques me font penser à de la musique classique. Comment la musique classique vous influence ?
Alors, merci. parce que la musique classique aussi, c'est très riche, très dense. Mais alors aussi, c'est peut-être la chanson qu'on vient d'entendre qui a beaucoup d'instruments qui rappellent ça. Et celle-là, elle a été arrangée par Étienne Champollion. Qui a arrangé tout l'album qui est à venir. Et oui, moi, la musique classique, je pense que ça donne beaucoup d'idées de mélodies. Surtout Gabriel Fauré, je pense que si c'est vraiment un compositeur en particulier qui m'a inspirée, je pense que c'est lui. Ouais, pour des mélodies plus surprenantes, plus larges aussi.
Est-ce que c'est votre passion pour la musique classique qui a fait que votre prochain album sera avec un orchestre ?
Peut-être que c'est ça. Parce que j'ai toujours... c'est vrai que moi, c'était toujours mon rêve, même de jouer avec beaucoup de cordes, de piano, de harpe sur scène. Ça, c'était toujours mon rêve. Et une fois, j'ai joué avec eux. Enfin, j'ai joué avec... c'était donc quatuor à cordes, piano et clarinette. Et là, je me suis dit, j'ai envie d'enregistrer avec eux. Et donc, c'est ce qui s'est passé.
Et enfin, pour terminer, on avait des questions sur le parcours. Quand on commence une carrière dans la musique, on a vu que vous avez fait beaucoup de tremplins. Mais qu'est-ce que c'est un tremplin ?
Un tremplin, c'est génial. Mais alors, ils ne donnent pas tous les mêmes choses. Et je pense qu'on est plein à passer par là, de faire plein de tremplins. Donc on se déplace beaucoup, on va un peu partout. Parfois en Suisse même. Et puis après, quand on gagne, on peut avoir soit un accompagnement, on rencontre plein de gens, soit des prix, des sessions d'enregistrement, des aides financières sur certains trucs. Et puis, surtout de rencontrer plein de gens qui vont connaître d'autres gens et qui vont nous conseiller des choses. Et puis aussi des dates de concert, beaucoup. Et puis là, quand on est exposé en date de concert, on en trouve d'autres parce qu'il y a des gens qui sont venus nous voir et qui ont envie de nous reprogrammer. Et donc oui, moi j'en tire beaucoup de bien de ça. Je ne sais pas si c'est exactement la question.
Vous avez également gagné beaucoup de prix, comme le prix Coup de cœur à Avignon ou le prix du public au festival Jean Ferrat. À quoi ça sert les prix ?
Alors, beaucoup de reconnaissance aussi. Parfois, peut-être moi je suis un peu scolaire, mais c'est vrai que ça rassure même l'entourage de dire « Oui, je ne suis pas allée bien loin après le bac, mais regardez, j'ai des tremplins et des prix. » et puis, ça veut dire, par exemple, prix du public Jean Ferrat, ça veut dire que la plupart des gens dans la salle ont voté pour moi. Et donc, puis après, on a des super retours. Donc oui, ça conforte. Et puis en plus, derrière, voilà, on a plein de récompenses, on a plein d'aides.
Vous êtes en autoproduction. Vous dites que c'est pour rester indépendante et faire vos propres choix artistiques.
Oui.
Ça veut dire quoi concrètement ?
Ça veut dire que j'ai moins de... Bon, on a toujours des compromis à faire. Hein. Enfin, on ne va pas arriver avec une chanson, par exemple, qui fait... Bon, ça peut arriver, mais 10 minutes. Bon, on ne va pas arriver avec des chansons comme ça. Mais ça permet d'avoir la pleine main sur son image et de ne pas avoir des gens qui vont dire « Moi, je te vois plutôt mettre des talons. » Ça m'est déjà arrivé. Et moi, je me vois pas avec des talons. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun rapport avec la musique que je fais. Si j'ai envie d'être pieds nus, je me mets pieds nus, quoi. Et voilà, ça va être un peu ça.
Ce soir, vous jouez d'une façon particulière. Vous jouez dans le jardin d'une maison. Est-ce que c'est la première fois ?
C'est pas la première fois, mais je crois que c'est la deuxième fois que je joue vraiment dans un jardin. Ça va être la première fois avec Titouan. Parce que la dernière fois, j'étais seule. Et j'aime beaucoup être dans des endroits comme ça où c'est beaucoup plus intimiste. On arrive chez les gens et les gens sont beaucoup plus à même de venir nous parler directement à la fin. C'est super agréable.
Qu'est-ce que ça change pour vous ?
Ça change, mais c'est ça que donc parfois, enfin oui, quand on est sur scène, on peut avoir ce côté intimidant. Enfin, les gens qui vont venir moins nous voir à la fin ou cette barrière un peu. Alors que là, on peut discuter directement des chansons, de tout, rencontrer les gens.
Enfin, sur YouTube, on vous voit chanter pieds nus. Est-ce que ce soir, ça sera le cas?
J'espère, oui. Oui, oui, s'il n'y a pas trop de pluie, non, ça devrait le faire.
Eh ben, ça devrait aller. Ça devrait aller. Normalement, on a regardé la météo. Ouf. Jouer pieds nus, ça, pour le faire, et ce sera mieux qu'en talons. Merci beaucoup, Léora. Merci beaucoup, Rose et Wayne, pour avoir posé vos questions. On va faire une petite coupure musicale. La compagnie Les Invendus viennent d'arriver. On va les rejoindre après. Ça va être notamment Rock qui va leur poser des questions. Vous êtes toujours sur 48FM pour le Festivalier, la 22e édition. On s'écoute tout de suite Raisin de Léora.
Ne me regarde pas comme ça, avec tes yeux inévitables qui font surgir partout en moi des bains de lave léthargiques qui perlent comme des raisins, des sanglots chauds d'amour câlin. Mais mon seul vin est à tes pauses, à mon envie de te tenir. Ne me promène pas comme ça entre tes libres attitudes, que mille mots ne sauraient dire et qui ne font que m'aplatir. De tous tes envols triomphants, celui qui me fait le plus mal et celui que je ne peux suivre, celui où tu ne m'attends pas. Ne me déchire pas comme ça, mon amour, si je veux te vivre. Je dois d'abord te consumer sans que tu changes de couleur. J'ai emprunté pour que tu remarques mon visage qui en tout coin sonne devant chacune de tes voix. Ne me laisse pas me traîner devant toi comme une gosse en larmes qui ne peut s'empêcher d'offrir toute la pudeur de son ciel. Si pour toi c'est désagréable de sentir le poids de mon trouble, je ne parviens à l'alléger que lorsque tu viens me parler. Ne me regarde pas comme ça, avec ta bouche qui fascine, avec ce vin rouge orgueilleux qui te protège d'être vu. Et si je peux t'appeler comme ça, mon amour, qu'est-ce que tu dégages entre tes portées de mystère que tu joues même les yeux fermés. Regarde pas comme ça, ou je jure que je vais me taire.
Nous sommes toujours en direct sur 48FM pour cette 22e édition du Festivalier. Et puis justement, juste avant pour parler musique, et puis là le festivalier c'est de la musique mais pas que, c'est également des spectacles de l'art et notamment du cirque avec la compagnie Les Invendus qui nous ont rejoints pendant la petite pause musicale. Bonjour Nicolas, bonjour Guillaume.
Salut.
Bonjour. Vous constituez la compagnie Les Invendus, hein, vous étiez déjà venu en Lozère ici même en 2023 et donc vous venez nous présenter ce soir le spectacle Influence qu'on retrouvera à 21h30 à l'école Jeanne d'Arc.
Alors ça fait 10 ans que vous êtes associé dans cette compagnie Les Invendus. Comment vous êtes-vous rencontrés ?
Eh ben, on s'est rencontrés d'abord par le biais de copains à nous quand on était au lycée. Et on était très copains et on a passé énormément de temps ensemble. On a d'abord voyagé pas mal d'années ensemble et nourri le jonglage à la base ensemble avant de monter la compagnie.
Rock.
On a lu que vous pratiquez le mouvement jonglé. Qu'est-ce que cela signifie ?
Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie quoi pour toi, tu crois, le mouvement jonglé ? Bon, il y a deux mots qui peuvent t'aider dedans.
La danse.
Ouais.
Le théâtre et le jonglage.
Ouais, 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 c'est tout ça. Alors, nous, quand on dit mouvement jonglé, c'est vraiment la danse et le jonglage. On se dit pas danseur et on est plus jongleur, donc vu que c'est du jonglage chorégraphié où on intègre entièrement le corps, on dit du coup que c'est du mouvement jonglé. Voilà. Parce que pour nous, c'est indissociable les deux. Le jonglage et le corps en jonglage, ça va de pair.
Comment on apprend ces différentes pratiques ? Quel a été votre parcours ?
Alors, on était d'abord autodidacte. On a partagé ensemble et au travers de notre pratique avec d'autres jongleurs, ça pendant 10 ans. Et après, on a fait des formations des écoles de cirque et des formations plus pro pour avoir des outils avant de monter le spectacle.
On a vu que vous aviez beaucoup voyagé en France, en Europe et en Amérique du Sud. Qu'est-ce que cela a apporté à votre pratique artistique ?
Qu'est-ce que ça a apporté ? Waouh, grosse question. Je pense que c'est plus dans les voyages, c'est les rencontres qu'on peut faire avec différents artistes. Avec, autour du jonglage en Amérique du Sud, il y a beaucoup de jongleurs, donc on a échangé autour de la technicité du jonglage. Après, en dehors, en Asie, en Europe... Ça nous apporte forcément, je pense, émotionnellement, humainement, énormément. Je pense que c'est ce qui nourrit aussi notre pratique artistique au-delà de notre pratique technique. Vraiment, c'est ce qu'on peut, nous, un peu transpirer ou vouloir partager en fait, avec les gens. C'est plus le côté humain, parce que c'est toujours ce qu'on a partagé en fait, dans nos voyages. C'est partager un moment, c'est partager du présent. Et je pense que le voyage, ça apporte énormément ça, d'être dans le moment présent et... Et en fait, nos spectacles relatent énormément du moment présent et de la relation.
Votre art joue sur la relation entre les corps et avec le jonglage. Et comment vous cherchez à susciter l'émotion du public ?
Alors, comment on arrive à susciter l'émotion du public ? Je pense que ça vient... Au début, ça a été... Pour nous, ça n'a pas été conscient de susciter l'émotion du public à cet endroit-là, parce qu'on pensait faire du jonglage... juste genre méga physiquement engagé, on s'est dit là on envoie de la technique, c'est engagé tout ça, et en fait au fur et à mesure du temps où on jouait, on s'est rendu compte que ça emmenait énormément de poésie, que ça emmenait différentes grilles de lecture et d'interprétation en fait au travers de nous, notre complicité, notre relation, notre manière d'être l'un envers l'autre et aussi avec le public.
Alors vous étiez venu au Festivalier en 2023 pour présenter votre précédent spectacle « Accroche-toi si tu peux », et vous venez aujourd'hui avec « Influence ». Est-ce que c'est une suite de ce spectacle ou quelque chose de différent ?
Alors, « Influence », c'est toujours dans la veine de la compagnie. Hein. On est toujours dans le mouvement jonglé, dans le duo, dans la complicité tous les deux. Après, ça a d'autres lignes directrices. C'est plus comment l'un influence l'autre... et jusqu'où ça nous amène de porter le jonglage ensemble, quelle énergie on peut transmettre à l'autre et jusqu'où on peut aller. C'est plus deux identités différentes par rapport au premier spectacle où on est plus en symbiose.
Vous avez choisi d'appeler ce spectacle Influence. Pourquoi ?
Alors justement, Influence, c'est ça, c'est l'influence de l'un sur l'autre. C'est dans ce biais-là, quoi. On
a voulu... C'est-à-dire l'influence sur le mouvement, l'influence sur, je sais pas, le comportement de l'autre.
Oui, ça peut être... c'est un tout. C'est l'influence de l'énergie. Comment si je suis excité, comment je le transmets à mon collègue et comment on peut se porter. C'est aussi à travers le jonglage, forcément, puisque c'est notre matière. C'est aussi dans la poésie, c'est dans tout ça, comment on va ensemble, comment on se porte et on se nourrit l'un l'autre.
Et comment vous imaginez, comment ça se passe la création de ce spectacle ? Comment vous l'imaginez, le choix des mouvements du corps, des danses, des jonglages. Comment vous assemblez tout ça?
Ça, c'est des matières qu'on travaille. On appelle ça des matières. On va commencer à développer des mouvements qui vont appartenir à un vocabulaire et qu'on va étendre, qu'on va compartimenter, étendre des choses dans l'énergie où ça nous plaît ou de la manière de faire qui nous plaise. Et avec ça, nous, on construit. C'est vraiment notre manière de faire. Je pense qu'il y a autant de gens que de manières de créer. Mais ça, nous, c'est vraiment étendre les mouvements, y aller en profondeur et aller jusqu'au bout de ce type de matière-là. Et voir après de ce qu'on en fait de tout ça. Et comment on gère la rythmique. Et là où on le place à l'endroit du spectacle, selon la dramaturgie qu'on voudrait avoir.
Et comment vous choisissez les accessoires avec lesquels vous jouez ? On a vu que vous aurez ce soir sur scène des balles, un sac de voyage, une boule à facettes, de la poudre colorée et une pomme.
Alors, effectivement, nous, on travaille avec des balles dans notre compagnie. Donc, ça, c'est l'outil qu'on a. Et après, forcément, on a d'autres petites choses qu'on va dévoiler au cours du spectacle, dans lesquelles on préfère encore ne pas en parler.
Secret professionnel.
Alors, vous mentionnez aussi sur votre site des regards extérieurs qui vous ont aidé dans la création du spectacle. Qu'est-ce qu'ils apportent justement dans cette phase de conception qu'on évoquait à l'instant ?
Alors, les regards extérieurs, ils nous aident à placer mieux le regard sur ce qu'on fait. Ça peut être un accompagnement pour tout ce qu'est la danse, pour avoir des décors bien placés. Ça peut être sur la rythmique du spectacle, pour nous aider à mettre le focus aux endroits où on veut, pour avoir un rythme qui nous convient. Ça peut être intervenu aussi sur la dramaturgie, le sens du spectacle. On a eu plusieurs regards extérieurs sur les différents points, quoi. Chorégraphie, jonglage, dramaturgie,
ouais, le jeu d'acteur.
Le spectacle est sans parole, mais avec une création musicale de François Collot. Comment se passe cette création musicale ? Est-ce que vous construisez la danse et le jonglage sur la musique, ou est-ce que la musique s'adapte à la danse ?
Alors, on l'a fait en plusieurs fois. Je vais juste reprendre, c'est François Collot, juste pour lui. Mais il n'y a pas D'accord. de mal. Hein. C'est juste pour lui, au cas où, si tu nous entends, François. Alors là, on l'a fait au tout début de la création. On a voulu faire de la recherche avec lui. Donc recherche de texture, d'ambiance musicale, pour nous aussi développer les mouvements en même temps. On a vu que c'était pas si évident que ça. Et au final, on a quand même reconstruit nos chorégraphies, comme notre premier spectacle. On a construit nos chorégraphies et après, on a remis une bande-son derrière. Une bande-son, c'est une création musicale. C'est vraiment, on a cherché quel type d'ambiance on voulait avec lui en fonction de nos chorégraphies, soit au plateau ou soit avec un travail vidéo. Et voilà, et ça a été ça pour tout le spectacle. Voilà, alors, prochaine question. Vas-y, voilà. Je fais la petite transition comme ça, tu te prépares.
Ce spectacle est aussi de l'engagement physique pour vous deux. Cela nécessite un entraînement important et un échauffement avant de monter sur scène.
Alors oui, on prend toujours le temps de s'étirer, de s'échauffer, de se connecter ensemble avant chaque spectacle. Ça nous permet d'être bien en cohésion, d'être sur la même énergie. Donc on prend tout le temps du temps pour jongler et réveiller bien les corps là-dedans.
Et c'est physique, votre activité, vachement en fait, non ?
Ouais.
C'était ça un peu ce qu'on se disait en regardant les vidéos tout à l'heure, en se disant il y a de l'engagement physique derrière tout ça.
Ah ouais, c'est clair. Bah ouais, c'est pour ça aussi qu'on s'échauffe pour ne pas se faire mal. C'est aussi un des aspects de ce métier-là. C'est vraiment d'essayer de préserver son corps, de préserver l'autre. Et comme dit Nico, il faut qu'on soit dans la même énergie, tous les deux, avec le corps bien réveillé. Si on n'est pas alerte tous les deux, ça peut y avoir des couacs et puis on peut se faire mal.
Bon, on aura l'occasion de découvrir ce soir, évidemment, sur la scène de l'école Jeanne d'Arc à Langogne pour le Festivalier. Merci Nicolas et Guillaume d'être venus à notre rencontre. Le spectacle est à partir de 5 ans, il est accessible avec le Festive Pass, gratuit pour les moins de 6 ans, 3 euros pour les enfants de 6 à 12 ans et 8 euros pour les autres. Et ce Festive Pass permettra aussi de suivre les spectacles d'art de rue de vendredi et de samedi à 18h30. Après le spectacle, il y aura aussi un DJ set avec DJ Goudard qui proposera donc un DJ set pour continuer la soirée en musique. Ça se passera toujours à l'école Jeanne d'Arc, c'est ouvert à tous sans bracelet. Ça permettra de continuer la soirée autour d'une boisson peut-être, très sympathiquement. Rendez-vous ce soir à 21h30 à l'école Jeanne d'Arc pour ces deux moments-là.
Merci Guillaume pour le programme de ce soir et d'aujourd'hui. Et justement, merci aussi à nos invités du jour.
Et Nicolas.
Merci. on retrouve le programme du Festivalier aujourd'hui. Donc, je rappelle, Léora, qui était notre deuxième invitée du jour aujourd'hui, ce midi au plateau, elle jouera à 18h dans les concerts au jardin. Et n'oubliez pas, c'est rendez-vous sous le hall de Langogne. Voilà. Ensuite, on vous emmène. À 19h30, c'est le deuxième concert. Ça sera Milena qu'on retrouve également toujours dans ses concerts au jardin. Encore une fois, rendez-vous sous la halle. Et puis, donc, on vient de le dire, on l'a évoqué, à 21h30, on retrouve les invendus qui sont encore avec nous en studio à l'école Jeanne d'Arc pour le spectacle Influence. Nous, on se retrouve demain en direct de Langogne avec Raphaël et Léo de Radio Bartas qui nous rejoignent. Je voulais aussi remercier Guillaume à la technique, mais surtout Rose, Wayne et Rock qui ont été nos super apprentis journalistes du jour, mais apprentis que de nom parce qu'ils ont déjà tout ce qu'il faut pour l'être. Et donc nous demain, on se retrouve à midi, on parlera des spectacles d'art de rue et du Festive Môme. Et à 16h45, on va se retrouver avec les artistes de la grande scène. Il reste encore quelques places pour nos ateliers radio. N'hésitez pas à venir nous rejoindre pour interviewer les artistes de la grande scène. À demain et bon festival. On se quitte avec Milena, J'y crois encore.
C'est pas fini. Dans ma tête, rien n'est clair. Dans mon corps, je me dévore. Je ne sais pas, je ne sais plus si j'ai raison ou tort. J'avoue, je suis vaincue par tes bras, serre-moi fort. Et moi, tu sais, j'y crois encore. Et moi, j'y crois. Juste un regard, beaucoup d'espoir, mais quelle histoire. On a bâti si beau, si grand. Un amour grand, c'est important. Celui qui me fascine, celui qui me fait dire c'est pas fini. Dans ma tête, rien n'est clair. Dans mon corps, je me dévore. Je ne sais pas, je ne sais plus si j'ai raison ou